Vous êtes bien sûr underscore à l'écoute de Radio Méga, et voilà, de vous dire ludiquement que c'était mieux avant, je sais nous allons faire nos vieux ronchons, mais il existe certaines pratiques qui vous rendent allergique au système.
Ah là là, mais alors, Lisa, toi aussi tu es ronchon là aujourd'hui?
Ah ouais?
Oh, je sais pas.
Ah bah alors.
Mais bonjour Aimé Human.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Bonjour Aimé Human, bonjour Cécile.
Eh bien oui, parce que cette semaine, on a décidé de faire nos vieux ronchons parce que c'était mieux avant.
Ah bah ouais, c'était mieux avant, ça c'est sûr. Hein.
Il y en a marre.
Bah ouais, d'abord. Mais tout de suite, nous allons passer à un croustillant de cette semaine.
Un peu
fails.
D'actu. Ah, qu'est-ce que ça? Ah,
les fails, les fails.
Générique.
Fail. 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 Eh oui, les failles du mois. Bah, Tesla a abandonné fond marée noire de données.
Il suffit de stickers sur la chaussée pour tromper le pilote automatique des voitures Tesla.
Un nouveau spyware pour Android nommé Exodus. Il n'a rien à voir avec Exodus Privacy qui lui protège votre vie privée.
Une fuite des codes d'accès chez Asus.
Les mots de passe de 3 millions de comptes électroniques suisses dans la nature, y compris ceux de personnalités politiques.
Encore une fonctionnalité non documentée des processeurs Intel détournée.
Oh, Microsoft ferme son service de livret électronique et rembourse tous ceux qui ont acheté le droit temporaire de lire certains ouvrages. Non parce qu'ils ont acheté un bouquin qu'ils ont peu effacé tout seul, c'est juste ridicule.
Ouais, ça veut dire que ouais, c'est un droit temporaire de lire, hein, c'est pas acheter un bouquin.
De la location.
Voilà, c'est de la location. Google refuse de supporter l'utilisation de son DRM Whitevine dans un logiciel libre. Ça devait arriver, hein, alors pourtant que le W3C avait promis qu'il n'y aurait pas de discrimination, mais bon, les promesses n'engagent...
que ceux qui y croient. L'ancien CTO de Mozilla détenu à la frontière américaine après qu'il ait critiqué l'administration Trump. Il est pourtant citoyen américain.
Oh, un bug dans Apache qui permet un accès route sur les serveurs partagés, comme les hébergements mutualisés. Ouf, ouf, ouf. Ça, c'est pas bon.
Sympa, hein. Ah bah, Google, encore, tiens, continue de vous traquer, même quand vous désactivez la fonction de tracking, justement, de tracking GPS. Bon, ça, on l'a déjà dit, mais les cadres de Google l'ont enfin admis devant le Congrès américain.
Facebook a exigé le mot de passe des comptes mail de certains utilisateurs pour vérifier leur identité, puis s'est excusé.
Des millions de données d'utilisateurs de Facebook publiquement disponibles sur des serveurs sur le cloud d'Amazon, dont des commentaires, des réactions et autres noms d'utilisateurs.
Une députée En Marche propose d'obliger les fabricants d'ordiphone à préinstaller une appli gouvernementale pour faciliter les démarches administratives. Mais ils fument quoi? Moi, je veux bien faciliter les démarches administratives, mais enfin, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode de foutre un espion chez tout le...
bon. WhatsApp permettrait à des inconnus de vous espionner.
Ça, c'est pas nouveau. Microsoft collaborait avec la Chine sur la reconnaissance faciale. Il s'agit certes de travaux de recherche, mais qui pourraient être utilisés pour la surveillance de l'État chinois, et le seront certainement.
Un portail de support de Microsoft abusé pour avoir accès à vos mails Hotmail, MSN et Outlook.
Pirater un compte Gmail, même avec l'authentification double facteur, c'est possible. Car même si ça rajoute de la sécurité, cela peut aussi introduire de nouvelles failles.
Une étude de Symantec sur 1500 hôtels révèle que 2 sur 3 divulguent des données sensibles sur ses clients. Rappelons qu'ils sont aussi soumis au RGPD.
Le site archive.org a reçu des demandes de retrait de contenu propagande terroriste complètement farfelu des autorités françaises par entremise d'Europol. Parmi eux, le contenu du projet Gutenberg, des milliers de livres disponibles gratuitement, la musique des Grateful Dead et les archives de C-SPAN, c'est-à-dire les enregistrements des débats du Parlement américain. C'est vrai que certains propos de certains députés US pourraient relever du terrorisme quand ils défendent les lobbies.
La production des usines de Fleury-Michon arrêtée durant 5 jours à cause d'un virus informatique.
Oui.
Voilà, c'est tout pour l'effet du mois. C'était pas mal, hein, quand même.
Oui, c'était bien croustillant. Ouais,
un bon gratin.
Alors, tout de suite, passons à une petite pause. Ah, difficile de partir, ça bouge tellement que voilà, c'était une petite pause musicale comme j'aime avec CTRL plus R. Le titre c'est 21, donc voilà. Passons au sujet du jour.
Jingle.
Le sujet. Et oui, maintenant je vais laisser le micro à Roudoudou qui va nous parler de son sujet qu'il a travaillé cette semaine, donc que vous proposez sur C'était mieux avant ?
C'était mieux avant, les jeux vidéo. Alors c'était mieux avant, donc j'ai découvert les jeux vidéo au milieu des années 80.
Un peu comme moi et comme les Mumen en fait.
Un peu comme tout le monde, hein. Les premiers jeux grand public étaient très figuratifs. Quelques lignes pour faire une route, un carré pour faire une voiture, quelques pixels pour faire un bonhomme.
Mais on passait des heures ?
Et on passait des heures. Il fallait une bonne imagination car les graphismes étaient pauvres et le réalisme inexistant. Mais on prenait plaisir au jeu. Et cette époque a vu naître des concepts hyper variés qu'on pouvait regrouper dans quelques grandes catégories. Hein. Réflexion, simulation, arcade, course, combat, jeu de tir, sport et ne l'oublions pas, éducatif.
Mais oui, c'est ce qu'il faisait vendre aux parents.
On a revendu beaucoup de Thomson. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation était surtout le fait d'amateurs, souvent étudiants en informatique, qui écrivaient des jeux vidéo pendant leur temps libre. On assistait alors à des comportements qui ne passeraient plus aujourd'hui. Je pense surtout à la propriété, au respect pardon, de la propriété intellectuelle. Les gens se piquaient des graphismes, ils s'inspiraient librement de musique commerciale. Donc ça, aujourd'hui, on pourrait...
Bande de pirates.
Pirates, voilà.
C'est clair.
Mais si on accepte ça, on avait des jeux originaux. Donc je ne crois pas, par exemple, qu'un seul sport ait été oublié à l'époque. Enfin, dans mon souvenir, c'était assez dingue. Hein. ceux qui me connaissent m'ont vu faire des tests de jeux en live. Et j'ai testé, par exemple, 20 jeux de golf différents sortis sur le même ordinateur. Et ils étaient vraiment tous différents, hein, pas qu'en graphisme, en comportement. Donc il y avait vraiment une grosse créativité. Et on arrivait, par exemple, si je prends l'Amstrad, on avait plus de 10 000 jeux hein, au total sur la durée de vie de la machine. Donc, quand on voit certains collectionneurs de jeux rétro qui sont tout contents d'avoir une centaine de jeux pour leur console, voilà, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'on avait au début des années 80. Dans le registre arcade, on a eu des perles comme Rainbow Island, où le but du jeu était de grimper le plus haut possible en sautant sur des arcs-en-ciel que le personnage pouvait poser devant lui. On a eu des jeux au look futuriste avec des robots, des vaisseaux spatiaux. On a eu aussi des premiers escape games, hein, qui est très à la mode, on en parle beaucoup en ce moment.
Tout à fait.
Voilà, donc on a eu... je me suis perdu dans le pad.
Oui, dans le but du jeu est de sortir d'une pièce, d'une
ton
prison.
Pad est un escape game, du coup.
Voilà. Et parfois, donc, on mélangeait les deux. Donc, si on mélange un jeu futuriste et un escape game, ça donne, par exemple, un prisonnier qui doit s'échapper d'une prison remplie de robots. Et de mémoire, ce jeu s'appelait Eden Blues sur Amstrad. Ensuite, on a eu un peu l'âge d'or du jeu vidéo, avec les années 90 qui ont vu débarquer des jeux plus gourmands en puissance, au fur et à mesure que le PC aussi doublait sa puissance, et ça, c'était quasiment chaque année. Hein. Il y avait deux fois plus de mémoire, deux fois plus de puissance, c'était assez dingue. Donc là, je pense évidemment au Doom-like, mais les jeux du type Doom existaient bien avant. Hein, c'est-à-dire que Doom n'est que, on va dire, l'aboutissement du moment des jeux de ce genre.
Un peu comme Wolfenstein.
Ce sont les mêmes personnes qui avaient fait Wolfenstein et Commander Keen encore avant. Mm-hmm. Et donc,
oui, c'est le même genre avec c'est le raycasting en fait qui évite d'avoir une carte graphique, mais qui permet quand même de faire de la 3D pas trop mal.
Voilà, moi j'appelais ça de la 2D rehaussée.
C'est à peu près ça. Ouais.
Dans le concept informatique. Et donc Doom, qui a lui-même été détrôné quelques années plus tard par Duke Nukem.
Come get some.
Come on. Donc concrètement, la puissance des ordinateurs révolutionne surtout la beauté des jeux. Ils sont plus beaux, ils sont plus fins. Mais cela demande évidemment beaucoup plus de travail pour les graphistes et aussi les équipes de 3D, de design modeling. Il devient alors impensable de réaliser un jeu tout seul. Un jeu vidéo réclame de grosses compétences en level design, en bruitage, musique et évidemment programmation, qu'on commence d'ailleurs à se partager en équipe pour pouvoir sortir les jeux plus rapidement, car les délais de réalisation s'allongent. Bref, le monde du jeu vidéo se professionnalise.
Aïe.
Cette professionnalisation du jeu vidéo a changé énormément de choses. Tout d'abord, la rentabilité maximum, hein, qui a rendu quasi systématique l'absence de prise de risque. Et le résultat fut un appauvrissement immédiat du paysage ludique, avec chaque année très peu de jeux. Hein, donc le même jeu de combat, ajoutez le nom d'un boxeur. Le même jeu de rallye, ajoutez le nom d'un pilote. Le même jeu de foot, ajoutez le nom d'une fédération. Voilà, donc,
oui, oui.
Donc ça devenait assez triste. Hein. De mon point de vue, on aurait voulu tuer la poule aux œufs d'or qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Mmh. Et il ne restait bientôt plus que quelques grosses franchises qui se partageaient le gâteau du jeu sur ordinateur.
On est d'accord. Hein. De toute façon, l'industrialisation, bah, c'est comme la nourriture. Hein.
C'est comme la bouffe. Hein.
Quand tu fabriques un plat chez toi et quand tu le fabriques industriellement, bah, ça n'a pas du tout le même goût.
C'est pas pareil. Alors, il n'y a pas que les ordinateurs qui ont dépassé le gigahertz, il y a eu les téléphones aussi, autrefois destinés à passer des coups de fil. Mais quelle idée de téléphoner qu'un téléphone. Ils se sont vus greffer des écrans Full HD, des cartes accélératrices 3D et des processeurs multicœurs de la mort qui tue.
Ah non, pas le mien.
Pas le tien, mais bon...
Certains téléphones sont aujourd'hui plus puissants que des ordinateurs de bureau d'entrée de gamme.
Oui, impressionnant quand tu peux regarder Netflix sur ton téléphone portable branché directement sur ta télé.
Cette montée en puissance des téléphones mobiles a signé le retour de vieux concepts de jeux. Alors au début, j'ai presque cru qu'on pourrait à nouveau profiter de la diversité des jeux de l'époque, enfin de l'époque des années 80 donc, puisque les éditeurs semblaient puiser à volonté dans le vivier du rétro gaming. Grave erreur.
Non.
On a surtout eu des jeux de cartes, des jeux où il faut péter des balles, des ballons, des cochons, whatever, et c'est à peu près tout.
Mais oui, parce qu'il faut taper dessus, en fait, avec ton doigt.
Donc les jeux se ressemblent tellement qu'on ne réalise pas toujours qu'ils viennent de studios différents, situés aux antipodes de la planète. Alors, ils sont certes très beaux, bien léchés, bien sonorisés, vu qu'ils sont toujours créés par des studios professionnels, mais l'impression dominante, c'est qu'on retombe dans les mêmes travers que les jeux vidéo pour consoles et ordinateurs. Alors, est-ce qu'on avait touché le fond ? Bah, je crains que non, parce que le pire était à venir, et il ne faut jamais oublier qu'on peut toujours faire pire. Donc, sur ordinateur, console et téléphone sont apparus les DLC. Les Downloadable Content ou contenus téléchargeables avec tous leurs défauts. Donc l'idée de base est louable, hein, c'est proposer du contenu supplémentaire. Alors, j'ai écrit en échange d'un paiement modique, mais à la base le DLC n'est pas forcément payant. Hein. Il se trouve que c'est rapidement devenu systématiquement payant.
Oui, ah oui parce qu'en fait quand tu vois tes applications sur ton store, mettons chez Apple, hein, on va parler, appelons un chien ou un chat, hein, voilà.
Oui, oui.
Parlons de nos expériences personnelles, quand tu as ton fils ou ta fille qui te demande « Maman, je veux acheter ce jeu, il est gratuit !» Et là tu vois tout en dessous « Achat intégré ». Mmh. Oui, c'est gratuit, vas-y télécharge, on verra.
Ah ben les micro-paiements, c'est le diable du Canada.
Voilà, donc
ah, c'est pour parler South Park. Mais...
Donc les DLC sont rapidement arrivés et certains éditeurs sont allés jusqu'à du coup castrer la sortie de certains jeux pour mieux vendre ce qu'ils avaient enlevé de leur jeu avant la sortie pour mieux le vendre par la suite. Donc au final, on n'avait pas de contenu supplémentaire, mais un jeu plus cher qu'on aurait eu avant complet ou sous forme de mise à jour gratuite. Et là, on devait payer donc pour avoir moins.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme dans South Park, ils expliquent très bien hein, comment ça marche. Hein, ça. Il faut que le jeu soit suffisamment intéressant, mais pas trop, parce que sinon, après, t'as plus envie d'acheter le contenu additionnel.
Voilà, donc en plus de ça, de plus en plus de jeux ne peuvent plus qu'être joués en réseau sur des serveurs propres à l'éditeur, ce qui laisse planer une épée de Damoclès au-dessus de tous les joueurs. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés sans jeu, qu'ils avaient pourtant payé, car les serveurs avaient fermé. Et terminé le temps où, voilà, le temps où on possédait un jeu vraiment de A à Z est terminé.
Ah oui, là, c'est vraiment fini. Hein.
Ouais, c'est de l'obsolescence programmée aussi. Hein.
Sur téléphone, les petits jeux gratuits, qui contiennent donc tous de la publicité ou pas cher, ont rapidement cédé du terrain aussi. Bien qu'il reste encore quelques ovnis dans le paysage, des jeux sympas, j'en ai trouvé quelques-uns encore, qui, si on les paye, n'ont définitivement plus de pub et sont jouables hors ligne à volonté. Mais bon, ce genre de jeu ne fait pas de publicité, on les trouve surtout via le bouche à oreille. Le système qui est en place... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un système.
Oui, c'est un système.
Consiste plutôt à produire plein de mini-jeux bourrés de publicités et dont les publicités renvoient vers plein d'autres, entre guillemets, jeux.
Mais oui, mais oui.
Du même genre.
Ah bah oui, ça c'est puis t'es obligé de regarder pour passer au jeu. Hein.
Non, c'est très consanguin tout ça. Donc on est ainsi saturé par l'idée que le téléphone n'a rien d'autre à proposer comme type de jeu et c'est bien dommage. Donc sont apparus les pay to win. Paye pour gagner, ce sont donc ces jeux sont toujours payants, hein, de façon directe ou indirecte, mais en fait, il faut payer en permanence pour pouvoir acheter une petite arme supplémentaire, un petit véhicule supplémentaire, ou des cartes qui ont des avantages décisifs, et parfois même des tours de jeu supplémentaires.
Ah oui, regarde maman, ça vaut que 10 euros pour que mon personnage il ait des lunettes et un vêtement cool.
Alors ça, c'est les pay to skin. J'ai appelé ça le pay to skin, c'est le pay pour habiller ton jeu.
Ah oui.
Où on paye pour avoir le droit de changer la couleur d'un personnage, d'un véhicule. Une sorte de dressing...
10 euros.
un dressing virtuel.
Sur quoi j'ai payé 10 euros.
Qui coûte de l'argent bien réel. Donc je suppose que si ça se vend, c'est aussi que ça s'achète. Hein. Donc voilà, tu viens nous en donner la confirmation. Et récemment, donc, j'ai découvert un nouveau type de jeu, ce sont les tap games.
Ah.
Donc en fait, ces jeux ne sont pas des jeux. Enfin, c'est mon analyse, hein, bien sûr. Hein. Ils sont contemplatifs, mais on ne joue pas en fait.
Non.
Alors, disons, on nous fait croire qu'on joue à quelque chose, mais en fait, on fait presque rien. Donc tout au plus, on a quelques choix de temps en temps. On nous incite surtout à payer pour débloquer des visuels ou aller plus vite dans le, entre guillemets, jeu. Certains de ces jeux lancent sans votre consentement des publicités presque toutes les deux minutes, toujours pour contempler des petites choses qui passent à l'écran, mais au final, le but du jeu consiste plus à regarder des publicités qu'à faire quelque chose dans le jeu. Et c'est vrai que la curiosité étant un défaut très partagé, ça peut marcher. Et à cause de cette maudite curiosité, pour ma part, j'ai déjà installé une bonne dizaine de jeux. Car je pensais, à cause de la publicité, que par exemple, il contiendrait un Tower Defense, un jeu de réflexion, ce genre de choses. Mais en fait, la publicité interactive qui me faisait croire ça était un meilleur jeu que le vrai jeu dont elle faisait la publicité. Et en fait, c'était complètement mensonger, hein, parce que dans la publicité, il y avait un Tower Defense Interactive, mais quand j'installais le jeu, il y avait pas ça.
Ouais, mais ça, c'est toujours entre celui qui a voulu décider le jeu et puis le programmeur, il y a peut-être une grosse marge.
Alors, il faut dire qu'en France, hein, à ma décharge, on n'est pas habitué avec notre bureau de vérification de la publicité. Hein. Il n'y a que les personnalités politiques qui mentent en France, mais les publicitaires, normalement, ne mentent pas.
Pardon, ah, pas... Tu t'étouffes. Bah, pourquoi c'est pas de la farine
non.
Et bien, sur nos téléphones, ça ne se passe pas comme ça, probablement car l'Internet n'a pas de frontières ni de pays. Alors, est-ce que le jeu vidéo est en train de mourir ? Non, on va terminer sur une note positive. Il est en train de renaître, car nos vieux jeux qu'on pensait morts et enterrés regagnent de fait de l'intérêt des joueurs qui peuvent enfin en avoir pour leur argent.
Ah oui.
Donc on voit tout ce qui est rétro gaming remonter en flèche, l'émulation qui revient en flèche, les distributions Linux type RetroPie qui permettent de jouer à tout un tas de vieilles consoles sur la télé. Donc là, on n'a pas de péremption, on n'a pas de contenu à débloquer avec des sous, on n'a rien à acheter pour avoir un avantage sur un concurrent, on joue. Voilà, donc le monde de l'émulation est en ébullition, on a donc des distributions Linux dédiées, et on a aussi un regain d'intérêt pour la programmation de jeux amateurs. Donc, en guise de conclusion, si c'est pour avoir des petits jeux à la noix gavés de pub sur son téléphone, autant se programmer des trucs intéressants soi-même.
Ouais, DIY.
Alors pour ça, on a plein d'outils. Alors on a, niveau matériel, on a les Arduino, dont on avait fait une chronique. On a les petites consoles virtuelles, la Pico, mais on a aussi les Pi, les Raspberry Pi.
Ah
les...
oui.
Voilà.
Plein de choses.
Et l'émulation.
Plein de choses, puis l'émulation.
Tu nous rajouteras des liens, comme ça on mettra tout sur AAA.fr.
On mettra plein de liens, c'est promis.
Petite pause avant l'agenda.
Petite pause.
Mais ce sera pas de l'agenda. This is Cyberstrike, a virtual reality in which two players go head to head for the ultimate prize, their freedom. The rules are simple. The game system is connected to your pulse and you are generated a weapon. If you do not defeat your opponent before the time is up, game over. C'était encore un petit peu de chiptune avec Chirbon Cyberstrike de Sabre Pulse.
Ouais.
Alors effectivement, nous n'avons pas d'agenda cette semaine parce que ben on n'a rien trouvé. Hein.
Des fois, il y a rien. Mais du coup, on va juste vous parler un petit peu d'un truc qu'il faut regarder. Donc un conseil de regarder, c'est le film La Bataille du Libre. Qui a été projeté d'ailleurs lors des JDLL, hein, des Journées du Logiciel Libre à Lyon.
Qu'on a failli voir.
Ouais, mais
d'ailleurs,
coup,
on est dedans.
Non, il paraît qu'on est dedans, donc on n'a pas encore vu, mais... Donc c'est un film documentaire, donc c'est une version 87 minutes, en fait, d'un documentaire qui va être bientôt diffusé sur Arte, ou il a peut-être déjà été, je ne suis pas sûr. Donc écrit et réalisé par Philippe Borel, et avec Annabelle Jarry et Marion Chatin, produit par Jérémy Zelnick et Tancred Ramonet, et Temps Noir pour Arte. Et donc, désormais, l'informatique est au cœur de presque toutes les activités humaines, et a-t-elle contribué à faire de nous des citoyens plus autonomes ou plutôt des consommateurs passifs d'un marché devenu total sans que nous en ayons conscience? Deux logiques s'affrontent aujourd'hui au cœur de la technologie depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre sont venus s'attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et privateurs du droit de la propriété intellectuelle. Donc il est très probable que ce soit programmé bientôt dans les cinémas du coin, on l'espère en tout cas, on va essayer d'aider à ça.
Oui, parce que c'est vrai que voilà, le titre du film s'appelle comment déjà ?
Donc c'est La Bataille du Logiciel Libre.
Et ça, je vous conseille vraiment de...
La Bataille du Libre, tout court même.
Ouais, La Bataille du Libre. Et ça, vraiment, on aimerait que ça se développe et qu'on le voie sur Valence.
Ouais, et peut-être à Créer aussi. Astrologique ?
Astrologique, attends. Je frôle la boule. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Sysadmin, HTPT, c'est le protocole qui l'est cassé. Il va falloir le réparer.
Libriste, Stash, compte de Git.
Technophile, les selfie sticks, quand ils sont vieux, ils vont en Russie. Bah oui, ça fait des selfies rustiques.
Hacker, dire que je pensais trouver ce fichier dans ce dossier. Elle laisse tomber, c'est pas à ton répertoire.
Nerd, est-ce qu'elle est bonne celle-là?
Mesix, bordel, santé vocale, il bug à mort. C'est pas surprenant qu'il y ait tellement peu de jeux qui ne le supportent pas, le synthétique.
Ouais, le synthétique. Ah ok.
Eh bien, merci amis de Terre de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode. Mais nous vous laissons de la surprise.
À bientôt.
Bye bye.
Bye bye.